Dans l'actualité des idées aujourd'hui, virus, distanciation sociale, burn-out, logiciel ou présentiel, mais aussi manspreading ou encore selfie, les mots de l'époque. Un portrait de la société française du 21e siècle à partir d'une enquête linguistique, une analyse des mots d'aujourd'hui ou comment, pour exemple, le like illustre le processus de marchandisation du lexique de nos sentiments. Avec notre invitée, la linguiste Julie Neveu, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Sorbonne, également dramaturge, donc une amoureuse des mots, auteur de « Je parle comme je suis » paru chez Grasset. Oui, parce que moi je dis auteur, je ne sais pas si vous dites autrice, en tout cas je l'écris avec un E. Bonjour Julie Neveu.
Bonjour Olivia Jesbert.
Auteur ou autrice ?
Eh bien, je dis auteur avec un E également, mais ça ne s'entend pas du coup. Donc il faudrait peut-être que je dise autrice si je voulais être un peu plus féministe.
On va dire auteureux.
Auteureux.
Hein, on voilà. Peut signer en tout cas chez Grasset un périple linguistique dans la France d'aujourd'hui, post-révolution numérique, une enquête linguistique comme vous la qualifiez. Et c'est très agréable de retrouver tous ces mots qu'on a tendance à vouloir perdre de vue alors qu'ils sont omniprésents dans notre quotidien, dans ce paysage lexical qui est le nôtre aujourd'hui. Comment fait-on un portrait de la France à partir de ces mots ? Comment vous avez procédé, Julie Neveu ?
Alors en fait, j'écoute. J'écoute, c'est ce qui est quelque chose que j'ai toujours fait particulièrement, je pense qu'un trait de ma personnalité, j'écoute les gens parler, je remarque quand ils font des métaphores, je remarque quand ils ont un emploi qui est un peu décalé par rapport à une norme, je remarque ce que ça crée comme effet. Et donc pour ce livre en particulier, j'ai vraiment essayé de recenser tous les mots qui étaient dans l'air du temps, les mots les plus partagés possibles, alors plutôt la langue orale, mais parfois aussi des mots qui restaient plutôt dans le débat public, donc que je lisais dans la presse ou que je voyais les journalistes utilisés, sans pour autant que ça devienne un mot du quotidien. Mais l'idée, c'était vraiment donc d'écouter, de vérifier que les mots dépassaient un certain milieu socioculturel. Vous voyez, j'ai pas retenu les mots qui sont propres à un seul milieu. Je voulais vraiment qu'il ait dépassé un milieu socioprofessionnel. Par exemple, tous les mots du globiche, les mots de l'entreprise, ça, j'en ai parlé un tout petit peu quand ils avaient dépassé cette sphère-là. Et après, j'ai vérifié que ces mots étaient vraiment des mots dont l'emploi était devenu très très banal ou très nouveau, mais très fréquent dans les 10 dernières années sur des moteurs de recherche. Voilà les statistiques, ce que les Français recherchaient comme mot, s'ils s'intéressent, à quoi ils s'intéressaient et surtout si après ils l'utilisaient vraiment.
C'est le globiche et ce sont les anglicismes charriés pour beaucoup aussi par cette révolution numérique à laquelle vous n'avez pas échappé. Mais j'avais juste une question. Quand vous entendez, vous dites, quand vous écoutez tous ces mots nouveaux, vous avez envie de vous boucher les oreilles ou il y a quand même pour vous une jubilation dans cette floraison, cette ébullition du langage?
Non, moi, il y a toujours un intérêt, une jubilation parfois. Là, on a un exemple plutôt malheureux qui est l'explosion de nouveaux mots pour désigner l'épidémie qui nous afflige depuis quelques mois. Et c'est vrai qu'en tant que linguiste, c'est phénoménal. C'est-à-dire que c'est du jamais vu à quel point il y a eu un nombre de nouveaux mots aussi élevé et à la fois un débat aussi grand par rapport à la façon dont il fallait les employer, le ou la Covid, vous voyez, ce genre de débat. Donc ça, c'est très intéressant. Après, c'est vrai que j'ai pas du tout de jugement. J'essaie de pas avoir de jugement. Enfin, spontanément, je pense une attitude de linguiste, et c'est pour ça que je suis devenue linguiste, c'est-à-dire que j'aime décrire, j'aime essayer de comprendre ce que ça révèle. J'aime essayer de montrer qu'un mot, en fait, n'est jamais neutre et qu'un mot révèle toujours un point de vue sur le monde. C'est vraiment ça. En fait, tous les mots sont des points de vue sur le monde. Et je trouvais ça important dans mon livre d'essayer de faire bénéficier, de partager cet outil. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas compte. On utilise des mots, on les propage, on les répète, parce qu'on est pris dans cette ère du temps. Sauf que la plupart du temps, on ne sait pas d'où il vient, pourquoi. Est-ce que c'est une posture cool et donc on emprunte un mot pour avoir une sorte de posture, vous voyez, de quelqu'un qui réussit dans le business et donc on passe des calls, etc. Ou alors, est-ce que c'est vraiment une histoire plus ancienne? Est-ce que autrice, voilà, dénote, est-ce qu'on a envie de dire autrice pour affirmer une existence, la part féminine de moi-même dans mon métier? Ou alors est-ce que je préfère garder la neutralité du métier et dire je suis auteur et qu'on puisse ne pas savoir si je suis une femme? Si j'étais pas en train de vous parler voilà, dans un micro, on ne saurait pas que je suis une femme. Si vous lisiez juste mon livre, moi je voulais pas une bouche qui soit trop pulpeuse sur ma couverture, par exemple. Parce que, voilà, donc en fait, c'est des chaque mot révèle un point de vue sur le monde et je voulais permettre au lecteur de se rendre compte de ce point de vue et de pouvoir lui-même faire le choix, consciemment, en conscience, de continuer à utiliser ou non ce mot, puisque ce mot révèle toujours quand même une sorte de parti pris.
En tout cas, elle est grande ouverte, cette bouche, et elle est marquée d'une empreinte, oui, comme celle que ces nouveaux mots sont en train de laisser sur notre époque. C'est peut-être d'ailleurs le propre de chaque époque, mais on a le sentiment d'assister en ce moment à une révolution du langage. On va entrer dans la grande machine pour un lessivage lexical avec notre réalisateur Thomas Beau.
En 1974 est donc créée une ZAD. Jean-Max. Ça ne veut pas encore dire zone à défendre, mais zone d'aménagement différé.
Bonjour Michel, peut-on se faire une réhu ASAP? Je te laisse revenir vers moi sur ce point.
Le burn-out et notamment les 5 signes qui ne trompent pas.
Des notifications, des push, des vibrations, du buzz, du stress.
Donc si vous voulez devenir un pétard et vous voulez que Pierre Ménès double tape vos photos sur Instagram, je vous laisse avec la
suite. L'homophobie vient de la contraction de deux termes. No mobile phone qui veut dire absence de téléphone et phobie qui veut dire la peur.
On est tous des zombies, faut l'admettre.
Jean-Max. Mais ghoster, c'est non. Et puis c'est tout.
En lice, pour le like d'or, tout le sport.
Le selfie parfait.
Waouh, c'est même plus une tuerie, c'est un massacre culinaire.
Les yeuves ont du mal à capter le langage chelou et zarbi des Tessis.
Tu croyais que t'es les marnaques avec ta vieille fake news pour t'es marre, frère.
Et le futur très immédiat, c'est ce téléphone Minitel qui permet de surfer sur Internet.
Jean-Max. Internet !
Information coronavirus.
Le maître mot, c'est le dégagisme.
S'il y a un endroit où les règles barrières sont appliquées, c'est l'hôpital.
La distanciation sociale. Je sais que c'est un concept qui nous rebute.
Alors, le confinement pourra être levé.
Donc on joue sur Paname pour aller en Tebois.
Voilà.
Et alors on met du coco dans la turvoie si on n'en a pas en taillep.
C'était pas encore le déconfinement, mais quelques assouplissements.
Jean-Max. Pourquoi ça existe les gens qui disent « belle journée » au lieu de « bonne journée » « Belle journée à vous ».
Belle journée à vous.
Merci à vous et belle journée.
Hello papi, Mickey Bazar. J'entends des bails à 300 morts. À ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas, mais t'es taré, ouais. Mais comment ça? Demandez t'y paix. Tu croyais quoi? Qu'on serait plus jamais. Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja. J'suis pas ta cata, dja dja. Genre, en katana, baby, tu dettes ça. Oh, dja dja. Y'a pas moyen, dja dja.
Aya Nakamura, la terreur des cours d'école, avec tous ces nouveaux mots qui nous reviennent à la maison et son dja-dja. Elle réinvente le langage et elle incarne cette génération aussi qui s'en saisit et s'en ressaisit. Julie Neveu, vous avez attrapé des pépites là dans ce que vous venez d'entendre ou d'écouter.
Ah bah, il y avait tout. C'est impossible à commenter. Vous avez tout mis.
Mais pourquoi on peut pas dire belle journée? Faut que
mais
je
non,
change.
Mais
alors.
Attendez, je vous ai dit que moi je suis pas normative, je suis descriptive. En fait, vous savez quoi? Sans rire. Donc. Vous pouvez dire belle journée, c'est très bien. Ça révèle que vous trouvez que bonne journée ne suffit plus. Peut-être que vous avez associé bonne journée au travail accompli, je sais pas, quelque chose de pas qui ne suffit pas à dire que vous êtes pleine de bienveillance et que vous souhaitez à votre interlocuteur qu'il passe véritablement une bonne journée. Et donc une belle journée, ce serait une véritablement bonne journée. C'est une surenchère dans la langue. En fait, c'est un processus tout à fait naturel d'usure des mots. Et quand des mots nouveaux comme belle viennent remplacer des mots qui semblent usé à celui qui parle, c'est qu'il y a il y a un manque de motivation. On a l'impression que le mot ne peut plus remplir cette fonction qui était de vraiment souhaiter une bonne chose à quelqu'un.
Et donc, peut-être que bonne a un peu perdu de sa superbe aussi parce que trop employé pour dire cette fille elle est bonne, par exemple.
Ah, écoutez, ouais. Est-ce que
le mot a été un peu galvaudé?
Est-ce qu'on entend que la journée va être bonne comme une fille peut être bonne? Est-ce que la journée est fraîche comme les jeunes filles sont fraîches aujourd'hui ou les hommes d'ailleurs? T'en ferais. Ça, c'est, je suis pas sûre qu'on entende cette connotation dans la bonne journée, mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas que belle journée qui montre notre souci, notre nouveau souci du prochain. Il n'y a pas de souci. Bon, évidemment, avec la pandémie, il y a cette expression qui est devenue très, très répandue, qui est prenez soin de vous. Hein, qui est du même type en fait, belle journée et prenez soin de vous. Et ce que je trouve très intéressant sur prenez soin de vous, c'est à la fois bien sûr une bienveillance donc linguistique, hein, c'est-à-dire qu'on qui est le take care par ailleurs en anglais. Hein, donc ça fait très longtemps que le take care, voilà, sauf qu'en anglais, le take care, il est vraiment assez vide. C'est-à-dire c'est vraiment devenir au revoir. Et la personne qui vous dit take care très souvent, elle regarde pas si vous voyez si vous avez l'air d'avoir besoin de prendre soin de vous. Ce que je trouve très intéressant, c'est que nous on a prenez soin de vous. Maintenant tout le monde, moi mes élèves me disent prenez soin de vous. Je suis bon, merci, d'accord. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Vous voulez que j'aille? Ok, je vais me laver les mains. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant avec prenez soin de vous, c'est qu'il y a quand même une ambiguïté fondamentale. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez l'intention bienveillante qui est motivée par ce contexte de crise. Donc, on est tous dans cette situation vraiment difficile depuis 8-9 mois, bientôt un an. Donc, oui, on a besoin de se choyer les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. Thématique d'ailleurs du soin qui se retrouve dans les soignants, qui est un nouveau terme qui a été utilisé. Donc, le soin est
thématique
devenu...
du care. Hein,
et oui, bien sûr, du care.
Le mot d'ailleurs, le mot, bien très sûr. Employé par Cynthia Fleury, la philosophe qui a travaillé sur cette thématique du soin.
Tout à fait. Donc, la thématique du soin est devenue voilà un vital là avec le virus. Mais ce que je trouve donc assez fascinant, c'est que prenez soin de vous. C'est souhaiter que l'autre voilà fasse attention. Donc il y a cette bienveillance, mais il y a aussi un petit flicage de mœurs, une petite police des mœurs, genre lavez-vous bien les mains et restez chez vous, ne bougez pas. Surtout, ne sortez pas.
Et qui est en train de remplacer un peu le ça va point d'interrogation, question à laquelle, de toute façon, on répondait rarement, ou en tout cas, on n'écoutait pas la réponse.
On n'écoute pas la réponse, mais, bien sûr.
Ça, on s'enquiert moins. C'est plutôt une injonction que de s'enquérir de la bonne santé de l'autre.
Raison.
C'est intéressant, juste avant de revenir plus globalement, ce qui se joue sur dans et sur notre époque, ces mots de l'épidémie, qui ne font pas partie du livre, puisqu'il a été écrit avant. Mais ces mots auxquels vous avez eu le temps de réfléchir pendant le premier, peut-être le deuxième confinement, quarantaine, quatorzaine, confinement, déconfinement, cluster, distanciel, présentiel, sur site. Il y a une floraison comme ça de mots depuis quelques mois. Est-ce que ce besoin de mots nouveaux, alors qu'en fait ils sont, on pourrait trouver dans notre vocabulaire des mots qui pourraient dire la même chose parfois, illustre pour vous à l'excès notre sidération face à l'événement?
Alors, en fait, je dirais pas sidération au sens où dès que vous produisez un mot, vous êtes déjà dans la réaction. Dès que vous le répétez, vous êtes dans l'appropriation. Donc, la sidération, c'est avant qu'on trouve les mots. Là, moi, de façon très datée, si vous voulez, il y a eu donc la déclaration du confinement en mars, il y a eu un flottement de 2 semaines, allez, guère plus, et les locuteurs se sont mis à s'emparer de ces nouveaux mots, même à jouer avec, à faire des blagues, vous voyez, apéro, corona-péro, etc. Et puis surtout, à utiliser le confinement comme un mot qui est devenu très banal. Plus on emploie un mot, plus il devient banal. Et donc, non, je pense que ces mots ont été nécessaires, car en fait, non, cette réalité-là, précisément, où il a fallu qu'on reste chez soi, qu'on s'occupe, qu'on travaille depuis chez nous, que le confinement est devenu cette situation partagée par tous, et pourtant véhiculant une telle inégalité sociale par rapport à ceux qui pouvaient vaquer dans leur maison de campagne et les autres qui étaient enfermés avec leurs enfants qui pouvaient rien faire, il y avait cette réalité qui était inédite. Donc je pense que c'était normal, naturel, logique que le langage prolifère pour trouver les mots qui pouvaient désigner ces nouvelles réalités, avec leurs connotations. Parce que vous remarquez que le premier confinement, donc on s'est habitué à dire confinement pour décrire la situation entre mars et juin. Vous voyez que le président de la République, quand il a fait son discours, n'a pas osé dire reconfinement, qui voulait dire reconduite à l'identique. Il a dit nouveau confinement, et depuis tous les journalistes, et même j'entends dans la rue les gens qui disent « Attends, c'est pas un confinement, c'est un semi-confinement, mais il y a zéro confinement, etc. » puisque ce n'est pas du tout vécu de la même façon, et que le premier mot, confinement, avait déjà assimilé, c'était grévé, si vous voulez, de toute la difficulté qu'on avait eue à vivre ça. Donc il était important de nommer différemment cette réalité qui allait être un petit peu différente.
Un confinement light.
Exactement.
Ce mot, ces mots de distanciation sociale, si on redevient très très sérieuse, quelle empreinte ils vont laisser sur notre manière d'être ensemble à vos yeux, Julie Neveu?
Alors écoutez, je suis pas psychologue, moi je m'intéresse surtout au langage, mais ce qui est sûr c'est que je pense qu'ils ils vont laisser une peur, une crainte, c'est sûr qu'il y a une peur de l'autre, du corps de l'autre, de la contagion. Moi je vois ça, je vois des enfants qui ont un peu peur qu'on les embrasse, des grands-parents qui posent des mains sur des têtes et des voilà. Donc voilà, le corps, enfin ce qui est fou, ce que je trouve voilà difficile, c'est que c'est vrai qu'avec la révolution numérique, il y a déjà eu ce phénomène d'abstraction de nos corps, voyez. On a déjà développé une sorte de communication de tous les instants qui a fait abstraction de nos corps. Merleau-Ponty, au début de L'œil et l'esprit, il dit « La science manipule les choses et renonce à les habiter ». Et on est allé très loin là-dedans, je trouve. C'est-à-dire cette capacité à, voyez, à faire de nos vies des vies qui, la majeure partie du temps, se déroulaient hors de nos corps. Et là, on est allé très très loin, beaucoup plus loin, avec cette injonction que dit d'ailleurs le suffixe distanciation. C'est-à-dire, il fallait se distancier. Vous voyez, la distance, ça suffisait pas. La distance est un fait établi. Il fallait se distancier. Donc, on nous a beaucoup, voilà, encouragé à faire des choses. Les gestes barrières, c'est une métaphore barrière qui veut véhiculer une efficacité. Efficacité plus ou moins grande. Mais donc, ce qui est sûr, c'est qu'on est allé très très loin dans, voilà, dans l'abstraction, que c'est nuisible, que c'est difficile, que ça génère une habitude qui, je pense, ne nous permet pas, voilà, de lier des vrais, enfin, de se parler entre être incarné réellement. Et donc, il va falloir retrouver cette habitude. Mais je constate aussi que tout le monde, enfin, les gens n'en peuvent plus. Et qu'ils ont peut-être pris conscience, peut-être que ça a fait prendre la mesure de l'importance du physique du corps. C'est-à-dire que moi, donc, je suis prof et je suis passée dans ce mode que nous détestons appeler le distanciel. Donc, alors là, je fais cours derrière mon écran, je fais cours à des groupes de 30 personnes. Et au début, il y a une sorte, de la part de mes élèves, hein, je vois de changement dans le comportement. C'est-à-dire qu'il y en a qui osaient mieux s'exprimer derrière leur écran. Vous voyez, ils profitaient de cette sorte d'impunité que donne l'écran. Et alors, j'avais des gens qui parlaient d'habitude, qui parlaient moins, d'autres qui ne parlaient pas du tout, qui se sont mis à parler. Donc ça, c'est intéressant. Mais là, au bout de 2-3 semaines, un mois et demi, il y a une sorte de fatigue énorme. Et les élèves, les étudiants n'ont qu'une envie, c'est qu'on se retrouve. Car, en fait, pour expliquer quelque chose, ne serait-ce qu'expliquer quelque chose, faire comprendre, il faut le corps, il faut être incarné. C'est-à-dire que là, je vois que tous ces étudiants sont totalement subjugués et passifs parce qu'ils reçoivent toutes sortes d'informations qui sont parasites. Or, le contexte d'un cours, se retrouver face à face, voyez, avoir l'ambiance de la salle de classe, tout le monde qui est tendu vers un même objectif dans un espace concret, ça, c'est primordial. Et c'est primordial, évidemment, pour le lien social, ce qu'on savait un peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a permis quelques prises de conscience, et que je pense que le retour au concret, c'est-à-dire à nos corps face à face, une possibilité de se toucher, va aussi prendre le dessus assez vite.
Et vous le dites, et vous le montrez dans ce livre, notre façon de parler s'inscrit toujours dans un espace-temps très spécifique. Vous racontez et vous montrez aussi comment toutes les révolutions sont à l'origine de nouveaux mots ou de nouveaux usages de ces mots, qu'on pense à l'imprimerie, à son invention, aux grandes découvertes ou encore à la Révolution française. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, avec la Révolution numérique, on est bien là encore en train de passer dans une autre étape langagière avec une empreinte indélébile qui va être laissée sur notre registre lexical, c'est-à-dire qu'à travers ce nouveau registre, on ne sera pas pareil, notre manière d'être au monde ne sera pas la même et notre manière de le dire non plus, évidemment.
Alors oui, je le pense. Je pense que il y a à la fois des progrès et des régressions, comme toujours, vous voyez, induites par les révolutions de toutes sortes. Je pense que notamment un changement fondamental, et dont j'entends pas tant parler en fait, c'est la mutation donc de notre mode de communication, qui est devenu moitié oral, moitié écrit. C'est-à-dire que, et ça c'est nouveau, c'est inédit, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a eu, si vous voulez, l'apparition d'une langue française écrite, enfin d'une langue écrite assez tardivement, hein, qui vient après la langue orale. Et après, on a eu deux façons de parler qui étaient l'écrit, la langue écrite qu'on apprenait à l'école, qui était très codée, très très formatée, très normative, surtout enfin à partir de la Troisième République, et les langues parlées, voyez, qui étaient une autre façon de parler. Et là, depuis l'avènement d'Internet, depuis la possibilité inouïe de parler, d'écrire et de communiquer en permanence, depuis aussi l'apparition, bien sûr, des formes courtes de communication dans nos téléphones, non seulement l'oral en tant que tel, à part à la radio, et encore on est filmé, n'existe plus dans un déploiement long. C'est-à-dire qu'on a des formes courtes en permanence qui sont d'un registre moitié écrit, moitié oral. Et d'où l'apparition donc des emojis, qui permettent de pallier, si vous voulez, le manque de réaction corporelle. Enfin, on se retrouve avec un langage mi-écrit, mi-oral, si vous voulez, avec l'écrit qui, au lieu de disparaître, ce dont s'inquiétaient, en fait, les linguistes avant l'apparition d'Internet. C'est-à-dire qu'il y avait, on disait, finalement, tout le monde est au téléphone toute la journée. Oui. Non, finalement, maintenant, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus de conversation longue au téléphone. En revanche, il y a des gens qui vont écrire en permanence, mais sur un mode très spontané, très court et très oral. Et donc, ça donne lieu à vraiment une mutation, je pense, dans la façon aussi d'exprimer ses émotions. Et du coup, dans la façon de les ressentir. Puisque si je ne nomme pas ce que je ressens, je ne le ressens pas.
C'est pour ça que vous dites que souvent ces nouveaux mots sont aussi des mots sans sentiment, presque des mots tue-l'amour.
Alors, je ne dis pas tout à fait ça, parce qu'en fait, je trouve qu'il y a un bénéfice réel et il y a du sentimentalisme dans ces émojis qu'on s'envoie. Je dénigre pas ça, vraiment. Je trouve qu'il y a un gain, en fait. Qu'il y a un gain, notamment du fait que cette conversation permanente est devenue majoritaire et qu'elle était peu claire. C'est-à-dire que les premiers textos, franchement, il fallait déchiffrer l'intention. C'est-à-dire que souvent, vous avez une forme courte. Comment comprendre ce que voulait dire la personne? Donc, c'est vrai que c'est des emojis qui sont certes une sorte de tyrannie de la positivité, de la blague, de la réactivité, sont quand même une façon d'élucider, de rendre plus léger, de rendre une conversation plus claire aussi. Donc, je ne trouve pas qu'il n'y ait pas de sentiment. Il y en a, mais il y en a de façon publique, permanente et c'est vrai que souvent, qui emprunte des termes qui, à l'origine, venaient d'un registre plus privé. Et je remarque que ce registre-là est devenu à rétréci, comme peau de chagrin. Et qu'il est vrai qu'on... je m'interroge sur notre faculté à continuer à réussir à décrire ce qu'on ressent dans notre intimité, quand la plupart de notre intimité est publiée, finalement.
Mais c'est intéressant aussi comment ces mots nouveaux ont parfois surgi pour nommer aussi des nouveaux mots MAUX, cette fois, de l'époque. C'est le cas du burn-out, qui est très utilisé aujourd'hui, et presque uniquement, pour qualifier cette forme de dépression liée souvent au travail. C'est le cas aussi de FOMO, un exemple que vous donnez, cette angoisse de passer à côté de l'événement. Et puis on peut aussi citer le terme de nomophobie, élu mot de l'année en 2018, par le Cambridge Dictionary. Tout ça, ce sont aussi des mots qui ont surgi parce qu'ils semblaient faire défaut.
Oui, tout à fait, faire défaut. On avait besoin d'eux pour identifier des mots, MAUX, identifier des pathologies nouvelles. Et donc, bien sûr, dès qu'il y a une pathologie qu'on ne peut nommer, on peut y remédier, voyez. Donc, on a besoin d'une... C'est un processus d'élucidation, en fait, d'une réalité. Et on a vraiment besoin du nom pour pouvoir y remédier. Et je voulais juste dire que le burn-out a en commun avec le FOMO, qui a en commun avec la nomophobie, tous les trois, en fait, sont des pathologies induites par un excès. Et cet excès, oui, est un excès qui est sans cesse alimenté, induit par notre rapport à l'information qui est continue. Et on s'aperçoit que notre cerveau le cerveau de l'être humain n'est pas prévu pour traiter comme un ordinateur autant d'informations. Et ça crée des dysfonctionnements.
Portrait linguistique de la France du 21e siècle avec notre invité jusqu'à 13h30. Pour l'heure France Culture, il est 13h19.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Hashtag je parle comme je suis, c'est le titre de votre livre, Julie Neveu, ce que nos mots disent de nous, le livre, votre essai qui est paru chez Grasset. Le hashtag justement, colère et consolation du grand Alain Rey qui nous a quitté le mois dernier autour de ce mot qui s'est imposé dans la langue française.
Le mot hashtag, nous le connaissons tous. Il y a un problème graphique, évidemment. Il ne faut pas l'écrire comme du hachis parmentier, il faut l'écrire H-A-S-H, parce que ça vient de l'anglais. Et quand on a imposé hashtag au lieu de dièse, parce que ça ressemble beaucoup au dièse de la musique, moi j'ai été plutôt triste, parce que je trouve que ce n'était pas la peine d'avoir recours à un anglicisme pour rien. Et puis je me suis un peu consolé en m'apercevant que, d'une part, il y avait le tag qu'on connaissait déjà sur nos murs, et puis ce H qui était mystérieux et qui n'avait pas de sens en français, il s'éclaire tout d'un coup quand on s'aperçoit que dans l'histoire du mot anglais « to hash » et « hash », le nom, il y a le verbe « hasher », tout simplement. C'est un de ces mots qui, par les barons normands qui ont parlé français en Angleterre pendant 2 siècles et demi, est passé dans la langue anglaise. Donc finalement, on croit avoir un anglicisme de plus, mais cet anglicisme de plus, il est fondé sur un mot français qui lui-même est d'origine germanique.
Voilà, les mots ont une histoire aussi, hein, ce que rappelle bien Allaret. Et beaucoup de mots ne sont pas aussi nouveaux qu'ils en ont l'air, reviennent aussi dans notre langage, hein, après certains détournements, et notamment des détours géographiques pour revenir s'imposer dans nos vocabulaires.
Hein. Oui, en fait, Allaret était très fort pour raconter l'histoire de ce ping-pong incessant entre la langue française et la langue anglaise. Et il insistait beaucoup sur le fait que les mots n'ont pas d'identité, n'ont pas de nationalité. Les mots ont une histoire. Ils représentent, ils véhiculent une culture. Et donc, quand on s'empare d'un mot, c'est qu'on s'est emparé d'une culture. Donc, ce qu'on peut déplorer, mais c'est ce que le mot révèle. Et en effet, donc il mentionne la conquête par Guillaume le Conquérant, donc en 1066 de l'Angleterre, qui a induit une telle, qui a coïncidé donc avec le début de l'emploi de la langue française par en Angleterre. Et on retrouve en effet plus de la moitié du vocabulaire anglais qui est d'origine française. Mais une fois de plus, même de dire ça, ça m'ennuie, parce que alors oui, d'origine française, non, en fait le français était d'origine latine. D'ailleurs, Allaret, et c'est là qu'il était révolutionnaire et vraiment qu'il faut essayer de faire vivre son esprit, parce qu'il glissait, et il glissait en plus avec modestie et avec gêne. Il disait que les chercheurs ne seraient pas tout à fait d'accord. Donc moi, je suis contente de reprendre ce terme. Il disait, la langue, en fait, la langue française, c'est un créole. Et il disait ça, évidemment, avec ce que ça dit comme, comme façon de bousculer le mythe d'une langue pure, voilà, et de rappeler que oui, eh bien, à l'instar de ceux qui ont été colonisés, la France a été colonisée, on pourrait dire, par les Romains, et la langue latine, en fait, s'est modifiée pour donner naissance au français, en incorporant, en effet, de l'allemand, enfin, de germanique. Donc, toute langue est comme, si vous voulez, un feuilleté, un millefeuille. Et quand on regarde, nous, on ne perçoit que la couche supérieure, celle qui nous est accessible. Et on dit, ah, c'est un mot français, ah, c'est un mot anglais. Mais évidemment, donc, la moitié des mots anglais venaient de la langue française. Et ils voyagent. Donc, le mot, j'aime bien l'exemple du mot date que les jeunes locuteurs utilisent vraiment de plus en plus. J'ai un date. D'ailleurs, ils ont mis au masculin. Moi, quand j'ai commencé à l'entendre il y a 10 ans, c'était j'ai une date. Date, voilà, vient. Semble anglais parce qu'on le prononce à l'anglaise, qu'en effet, le modèle induit par le mot date, représenté par le modèle, c'est le modèle de la rencontre en ligne, la rencontre programmée. Et c'est vrai qu'il y a toute une mythologie autour de je vais construire mon destin, je vais tomber amoureux, je vais me marier, je vais réussir ma vie sentimentale, vous voyez, qui est à l'opposé de la culture française, voilà, du marivaudage, où c'est la surprise de l'amour, où l'amour tombe et n'est pas prévu. Et c'est ça qui fait la valeur en France, du moins, hein, dans les mythologies. Voilà. Alors, on a un choc entre deux cultures. C'est ça qui dérange, je pense, profondément les gens. Mais sauf que date, on peut rappeler que les Anglais, les Américains l'avaient emprunté aux Français, bien sûr. Et quand ils ont commencé à utiliser, nous avons un date, we've got a date, à l'époque, sans doute avec l'accent français, ça venait du français. C'était pour dire un rendez-vous, une date. Vous voyez, c'était une date dans le calendrier. Donc, c'est passionnant d'étudier les itinéraires et ça nous rappelle à quel point l'idéal monolingue qui forge notre rapport à la langue en France est faux, est une illusion. Et depuis que je parle un peu du livre et que j'entends des réactions de gens qui m'accusent de ne pas défendre la langue française assez, j'essaie de réfléchir pour leur dire, écoutez, je veux bien débattre, mais connaissons les termes du débat. Et les termes du débat, c'est que la France n'est pas plus, enfin, a certes réussi à imposer un usage majoritaire et normatif d'une langue plutôt uniformisée, mais il y a eu d'autres langues, d'autres apports, il y a toujours des emprunts, c'est une richesse, la variété est une richesse. L'idéal monolingue est appauvrissant.
Du jour au lendemain, écrivez-vous, Julie Neveu, je n'entendais plus autour de moi que les manifestations linguistiques de notre révolution numérique, enfin digitale. Dès qu'un ami ouvrait la bouche, il était en mode lessivé. Dès que j'allumais la radio, un politique parlait de changer de logiciel. Mes élèves, quant à eux, ne faisaient que bugger. D'ailleurs, ils avaient zappé le devoir sur table, vu qu'ils n'étaient pas connectés. Alors, sont entrés dans notre vocabulaire des mots nouveaux, des mots de l'homme-machine, mais il y a aussi des mots de combat, et c'est important, vous l'avez souligné, c'est intéressant de montrer comment les minorités se sont réappropriées le langage, ont inventé leurs propres mots, peut-être aussi pourquoi ? Pour contrer les discours dominants.
Tout à fait.
Et là, on pourrait penser aux mots du féminisme d'aujourd'hui, la charge mentale,
bien sûr.
Le manspreading qu'on évoquait en ouverture et beaucoup d'autres.
Hein. Bien sûr. En fait, il s'est passé, et c'est en ça que chaque révolution a donc des effets, on va dire, néfastes et des bénéfices sociaux nets, c'est que des groupes de personnes qui estiment, qui ont été victimes de telle ou telle discrimination, ont pu se fédérer plus facilement. Vous voyez, le hashtag dont parlait Alain Rey a permis de fédérer MeToo, par exemple, un mouvement comme ça, qui, par le simple, fait de partager une histoire de souffrance, rendait supportable cette souffrance et permettait donc de donner la parole à beaucoup, beaucoup de personnes qui étaient isolées, qui vivaient leur histoire personnelle. Comme, voilà, donc ça, c'est merveilleux. Et en effet, je crois que je ne sais pas si c'est déjà produit aussi vite qu'autant de vocabulaire de sphères militantes, en effet, soit devenu audible. C'est vraiment un phénomène de visibilisation, vous voyez, des luttes. Donc charge mentale, en effet, qui était inventée. À chaque fois, c'est souvent des sociologues qui ont proposé il y a plus longtemps que ça. Ça fait déjà un demi-siècle que charge sociale, enfin oui, à peu près, oui, existait. Et finalement, quelqu'un s'en empare, le popularise. Ici, c'était la dessinatrice de BD, Emma. Et elle le popularise, et d'un coup, pour que le déclic ait lieu, pour qu'on se mette à reproduire, à employer le terme, il faut que nous soyons prêts. Il faut que notre mentalité soit réceptive. Il faut que nous soyons prêts à entendre cette dissymétrie. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui sont venus enrichir le débat et qui mettent l'accent. Et ça dérange souvent parce que ça se heurte, une fois de plus, à des préjugés ou des impensés, juste des impensés. Par exemple, racisé, c'est un bel exemple. C'est un exemple, c'est très délicat, ce terme-là, parce que c'est le point de vue. En fait, le point de vue des militants antiracistes qui nous demandent d'utiliser ce terme, alors qu'on a été éduqué à penser que le mot race était impossible à dire, puisque c'était une fiction, puisque ça ne désignait rien de vrai. Or, les militants reviennent, donnent leur point de vue à travers racisé en disant « utilisez-le ». En fait, la plupart, il y a débat parmi les militants, mais la plupart des militants antiracistes disent « il faut l'utiliser » parce que c'est la seule façon de prendre en compte, prendre conscience des inégalités subies par une grande partie de la population, tous ceux qui sont moins blancs que les autres.
Des mots miroirs de notre époque, post-vérité, fake news, genré, racisé, climato-sceptique, selfie, il y en a beaucoup et il ne nous reste même pas une minute si vous deviez en garder un. Julie Neveu, c'est évidemment difficile, mais quel est celui qui, en tout cas, vous surprend le plus aujourd'hui et qui vous semble bien dire ce que l'on vit, voire dire ce que l'on est, puisque c'est aussi un portrait de nous que vous avez fait à travers ce livre.
Je trouve selfie, moi, très intéressant. Selfie très intéressant parce que j'aime bien souligner le fait que le selfie, c'est un geste donc photographique de construction de sa propre identité sur Internet. Enfin, un geste qu'on fait parce qu'on le projette vers quelqu'un d'autre. Et donc, c'est l'inverse d'une société narcissique. Si vous voulez, on se regarde que le nombril. Notre nombril ne vaut que parce que je le montre à quelqu'un d'autre. Donc, ça, très intéressant. Il y a un lien social très, très fort et qui est renouvelé sans arrêt par la construction de notre identité sur Internet. Et c'est bien ou c'est mal, je sais pas. En tout cas, c'est dans l'air du temps.
Et la glottophobie, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie du débat. En un mot, ce racisme envers les accents.
Oui, mais je trouve ça très intéressant. Je trouve
cette discrimination.
Très... Oui, et je j'étais étonnée de voir les chiffres d'un sondage IFOP qui dit que 27% des Français se sentent discriminés à cause de leur accent. Et si c'est le cas, moins embauchés, etc. Luttons contre cela. La variété, je vous dis, en France, on a trop tendance à penser que la variété, qu'il y a une norme et que ce qui se situe à l'écart de cette norme en dessous. Ce n'est pas le cas.
Et cette norme, elle peut nous enfermer. Hein, cette idée, ce besoin que tout le monde parle de la même manière, il faut plaider aussi pour cette diversité. Ce que vous faites dans ce livre, rappelons juste qu'une proposition de loi contre la glottophobie, c'est-à-dire la stigmatisation, la discrimination des personnes qui parlent avec un accent, est à l'étude en ce moment à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à vous, Julie Neveu, d'avoir été avec nous. Je parle comme je suis chez Grasset, c'est le titre de votre essai. Merci. Et un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table. Pour La Grande Table des idées, à Jean Bulot avec Laura Dutèche-Pérez, pour La Grande Table Culture à Henriette Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Madeleine Martineau et de Anouk Delfino à la réalisation. C'était Thomas Beau avec Swad Boukorsa à la technique. Très belle après-midi sur France Culture. Belle.